le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je suis avec Annaëlle Barbeau, bonjour Annaëlle, qui est étudiante infirmière en troisième année à Montpellier, et je suis avec Joachim Aubourg, bonjour Joachim,
bonjour,
qui est étudiant en sciences politiques, en master sciences politiques, c'est ça ? Non, c'est sociologie.
Master
de sociologie à Paul Valéry. Aujourd'hui, je les ai invités à me rejoindre pour vous parler de la drogue. Alors, pourquoi est-ce que Amnesty International s'intéresse à la drogue ? Bah parce qu'il faut bien reconnaître que dans le monde, il y a un grand nombre de personnes démunies et marginalisées qui souffrent des politiques brutales liées au contrôle de la drogue. Comme la guerre contre la drogue ne réussit pas à lutter efficacement contre le problème, mais qu'elle cause elle-même d'autres problèmes. Parmi ces problèmes, on compte l'implication du crime organisé dans le trafic de la drogue, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, des actes de torture et autres mauvais traitements de la part des forces de sécurité pendant les opérations anti-drogue, le recours à la peine de mort, parfois, pour des délits en lien avec la drogue, et aussi une application discriminatoire des lois anti-drogue contre les communautés marginalisées, y compris des minorités ethniques et raciales, et la fraction la plus pauvre de la société. Amnesty International a donc mené des recherches depuis quelques années sur la drogue, mais nous on va commencer par s'intéresser à ce que c'est la drogue, comment est-ce qu'on peut définir ça, et du coup Annaëlle, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une définition médicale de ce que ça va être la drogue, voilà, dans tes études, qu'est-ce qu'on t'a appris sur la drogue ?
Alors bah, la drogue, selon l'Institut de la Santé belge, une drogue c'est une substance psychoactive qui est utilisée à des fins non médicales. Après, de manière plus générale, on peut dire que la drogue, c'est toute chose ou situation pouvant provoquer un état de dépendance, une addiction. Donc ça peut être, si on prend cette définition qui est plus large, le sexe, les jeux, ça peut être considéré comme des drogues. Après, dans le milieu médical, on parle parfois de drogue pour des produits, des médicaments, surtout en anesthésie, des drogues anesthésiques. Donc voilà. Et il y a des produits, bien sûr, des médicaments qui peuvent produire des dépendances, donc la morphine par exemple, et c'est qualifié de toxique. Et elles sont rangées dans une armoire à toxique. C'est très sécurisé. Voilà. Donc la drogue, d'un point de vue médical.
D'accord. Donc, et est-ce qu'on peut du coup. On différencie pas la drogue de l'addiction dans le milieu médical ?
La drogue, c'est la substance. L'addiction, c'est le phénomène qu'elle engendre.
D'accord. Et Joachim, toi qui fais des études plutôt en sociologie, du coup, est-ce que tu as plus de précision à apporter à cette définition ? Comment est-ce qu'on définit la drogue et le phénomène de drogue en sociologie ?
Vraiment une définition sociologique à proprement parler de la substance de la drogue, mais on peut déjà la caractériser d'un point de vue juridique, en fait. C'est elle qui va définir ce qu'on entend par drogue, donc les drogues illicites, mais aussi une partie comme le tabac, l'alcool ou les médicaments, comme Annaëlle l'a évoqué, qui est donc des drogues licites. Et en fait, cette distinction va évoluer avec l'histoire déjà, parce que même les substances qu'on considère comme illégales n'ont pas toujours été illégales. C'est principalement arrivé à la fin des années 60, en fait, en 1971, il y a une grande convention, en fait, au niveau de l'ONU. Qui cherche à classer en fait des substances comme étant illicites, notamment l'opium et tous les dérivés, la morphine, l'héroïne et la marijuana aussi. Mais aussi on peut dire que dans le social, c'est la drogue est très mal vue, en fait. Donc ça veut dire qu'on va classer tout ce qui va être drogué comme des personnes déviantes par rapport à une norme du groupe majoritaire, quoi.
D'accord, mais du coup, on peut faire deux catégories pour toi dans les drogues, la catégorie licite et la catégorie illicite. Donc entre légal et illégal, en fait.
Ça c'est d'un point de vue juridique. Après, d'un point de vue sociologique, on pourrait dire que non, on considère que la toxicomanie elle va être dangereuse, mais ça c'est le point de vue du groupe social, en fait. Donc par rapport à la norme dominante, en fait, être drogué, toxicomane, c'est une déviance. Mais on parle que des gens qui sont considérés par la société comme consommateurs de drogue, donc des drogues illicites, alors qu'en fait, ça va dépendre aussi beaucoup des aspects socioculturels des pays. Par exemple, je sais pas, en Bolivie, par exemple, la culture de la coca, c'est un truc qui est culturel et historiquement assez daté. Et alors que, par exemple, quand on les transforme en cocaïne, ça va tout de suite être combattu, notamment par les États-Unis. Voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la définition de la géométrie variable est dans le temps aussi, donc ça va dépendre des endroits, comment les gens considèrent la substance et comment la justice va apporter aussi un regard là-dessus.
D'accord, donc t'es en train de dire qu'en fait, la drogue se définit plus par le regard qu'on va porter dessus, que la société va porter dessus, que sur la substance en elle-même, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en sociologie, c'est d'un point de vue médical, c'est ça, c'est juste une substance qui va modifier la perception, c'est juste une substance psychoactive, en fait. Donc, après, c'est les sociétés qui vont juger qu'elles sont bonnes à prendre ou pas bonnes à prendre. Après, c'est sûr qu'elles sont prises aussi d'une manière récréative, donc depuis peu, c'est moins ritualisé comme ça pouvait l'être avant dans certaines traditions, faire partie d'un processus plus culturel. Maintenant, c'est plus récréatif, quoi, vraiment dans l'amusement.
D'accord, donc tu veux dire que en fait on a changé d'usage de la drogue, on a changé de façon de prendre des drogues. Avant c'était un peu plus culturel que maintenant, où c'est plus récréatif. Et en parlant d'usage, on va parler des usagers. Comment est-ce qu'on définit un usager de drogue? Comment est-ce qu'on reconnaît un usager de drogue? En tout cas en sociologie, quand tu parles d'usager de drogue, qu'est-ce que t'entends par là?
Bah justement, la quantification des usagers de la drogue, ça a vachement évolué dans le temps, en fait, parce que déjà c'est compliqué à recenser, à faire des statistiques dessus, parce que par définition c'est illégal, donc ça passe un peu sous les radars de l'État. Et en fait, c'est assez récemment qu'on a créé un observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui est en rapport en fait avec la création d'un observatoire européen. C'est en 93, il me semble. Et donc ça correspond aussi à un changement de prisme dans la vision que les chercheurs vont appréhender, en tout cas, la consommation de drogue. Parce qu'en fait, au moment où ça devient vraiment un problème public, ou en tout cas, la drogue, elle est apportée en tant que problème public, c'est d'abord un problème moral, en fait, dans les années 60. Donc là, on va vraiment parler de déviance et de comportements immoraux, parce que notamment, on va connecter ça avec la criminalité, ou aux États-Unis, par exemple, c'est aussi très lié à l'immigration. On va associer pas mal de... Enfin, différentes populations immigrées à tel type de drogue.
Donc ça va apporter des discriminations, tu veux
ça
dire?
Ça va apporter des discriminations. Oui, ça apporte certaines discriminations. Et de toute manière, oui, vu que ces populations-là sont considérées comme illégales du fait de consommer du fait de leur toxicomanie, et de toute manière, elles sont discriminées. Ensuite, le problème va être plutôt considéré d'un point de vue sanitaire à partir de la fin des années 80 avec l'épidémie de sida, en fait.
La drogue va être très très liée à cette épidémie, du coup.
Oui, parce qu'en fait, ça va causer des problèmes sanitaires, notamment avec l'échange de seringues. Donc là, c'est principalement l'héroïne qui est visée. Et d'abord, la répression est très forte. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des groupes émerger et s'organiser en fait entre eux, entre usagers de la drogue, pour faire revendiquer en fait des droits aussi à avoir des soins comme tout le monde, et pas forcément que ça soit que du répressif, mais aussi à aborder la chose d'un point de vue de la réduction des risques. Donc c'est là que ce terme est apparu. Et notamment les carudes sont nés dans au début des années 90.
Les carudes?
Les carudes, c'est des centres qui servent de réduction des risques, en fait. D'accord. Donc ça va être des usagers de la drogue qui vont accueillir d'autres usagers de la drogue, avec aussi un accompagnement psychologique, sanitaire, et tout ça. Et du coup, le but, c'est pas un but prohibitif, justement. Ils vont pas vouloir totalement que les gens... décroche, ça va pas forcément être le but c'est pas forcément de prohiber totalement la drogue, le but c'est juste de réduire les risques qui y sont liés. Et donc ça, comme je le disais, dans les années 90, c'est plutôt un problème sanitaire, notamment à la crise du sida, lié à la crise du sida. Et après, en fait, là, les dernières recherches, à partir des années 2000, on va commencer à envisager le problème de la toxicomanie, donc d'un point de vue social. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les différents modes de consommation.
Peux nous donner des exemples de modes de consommation?
Savoir si ça va être un usage répété, si ça va être un usage quotidien,
d'accord.
Savoir à quel point la personne va être addict. Après, Enfin voilà, on va essayer de complexifier un petit peu la manière d'envisager la consommation de drogue. Et du coup, ça se répercute aussi sur la manière de comptabiliser les usagers de drogue, parce que justement avec la création de l'EFDT, donc dans les années 90, on va enfin pouvoir faire des enquêtes en population générale. Donc ça veut dire appeler par téléphone et demander à des gens s'ils sont consommateurs ou non. Donc avoir des données beaucoup plus précises en fait, parce qu'avant les seules données qui ressortaient c'était des données d'ordre administratif, donc ceux qui passaient à l'hôpital ou les arrestations.
Ouais.
Donc effectivement c'était très restreint et surtout on faisait pas de distinguo, donc un fumeur de marijuana ou quelqu'un qui prenait de l'héroïne, bah ça allait être un toxicomane, donc un usager de la drogue. Alors qu'en fait au fur et à mesure que ça avance justement on va finir par distinguer tout ça. Donc savoir quelle substance il consomme, quelle fréquence, comment il s'administre, en quelle quantité, à quelle occasion, et voilà. Et du coup, ces enquêtes en population générale vont permettre. En fait, ça s'est fait aussi par rapport à un truc qui s'est passé dans la loi, c'est que avant, lorsqu'une personne enquêtait, en fait, elle était obligée de si la personne déclarait avoir fait quelque chose d'illégal, donc consommer de la drogue, elle était obligée de s'en référer en fait à une autorité judiciaire. Chose qui a été modifiée dans les années du coup 90, 93 je crois que c'est l'année de création de l'EFDT. Et donc ça a permis forcément d'avoir des données beaucoup plus précises.
Ah oui, parce que les gens n'avaient plus peur du coup.
Et voilà. Et les chercheurs aussi pouvaient se permettre du coup de faire ça sans mettre trop dans la merde les gens enquêtés.
Ouais, évidemment. Et donc du coup c'est passé d'un problème moral à un problème de santé publique. Toi Anaëlle, au niveau santé publique, j'imagine qu'on a dû t'apprendre une façon de gérer un petit peu les usagers de la drogue, ou alors comment est-ce qu'on accueille les personnes qui utilisent de la drogue et qui ont potentiellement un problème avec la drogue à l'hôpital?
Alors à l'hôpital, dans l'hôpital, je sais qu'à Montpellier il y a un service d'addictologie, mais là c'est plus pour des gens qui ont des problèmes de santé qui sont liés à leurs addictions. Bah, par exemple l'alcool, ça va apporter des problèmes de foie, de vésicule biliaire et compagnie.
Et donc du coup il y a le service d'addictologie qui complète.
Voilà, et enfin là on va traiter les phases aiguës. Et après sinon il y a les cas rudes. Donc les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Avant ça s'appelait Access, et c'est devenu CARUD en 2005. Et donc là c'est le...
Ça c'est indépendant de l'hôpital ou c'est dans l'hôpital?
Non, c'est indépendant de l'hôpital.
D'accord. Et c'est géré par qui? Il y a des professionnels de la santé,
il y a des infirmiers, il y a des médecins. Et là on accueille des usagers de drogue et on leur propose des solutions pour réduire les risques, pas forcément comme il a dit Joachim. Pour les arrêter de, enfin pour qu'ils arrêtent la drogue.
D'accord.
On va faire eux ils distribuent de la méthadone. Donc la première prescription de la méthadone, ça doit se faire par les XAPA, c'est un autre organisme. Donc c'est un médecin des XAPA qui donne la méthadone. Et après, une fois que la première prescription a été faite, ils peuvent toujours revenir au CARUD prendre la méthadone.
Et c'est quoi la méthadone? Ça sert à quoi?
La méthadone, c'est un produit substitution pour des personnes qui prennent des drogues dures comme l'héroïne. Voilà.
Qu'est-ce qu'on entend par drogue dure dans le milieu médical du coup?
Alors les drogues dures, c'est celles qui sont considérées comme les plus dangereuses. Et les drogues douces, c'est plutôt celles qui sont légales en général.
D'accord. Et du coup, les CARUD, est-ce que ça a un lien avec ce qu'on a appelé les salles de shoot? Il y en a encore en France, des salles de shoot?
On appelle ça des salles de consommation à moindre risque. Et bon, après voilà, salle de shoot, hein, c'est plus connu, mais c'est pas dans les CARUD.
Et ça existe ça en France? C'est dans les hôpitaux ou c'est...
Il y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-unes.
D'accord.
Je sais pas si tu sais combien il y en a.
Il y en a, pour l'instant, il me semble qu'il y en a deux. Il y en a une qui est à Paris, à côté de Gare de l'Est, il me semble, et une autre qui est à Strasbourg. Et là, avec tous les problèmes, notamment liés au crack à Paris, là, récemment, ils sont en train de voir s'ils peuvent pas développer plus ce dispositif qui fonctionne très bien d'ailleurs d'après les associations, et l'étendre même à Montpellier. Il en était question aussi à côté de la cité Gély à un moment.
D'accord.
Mais voilà quoi, ça prend beaucoup de temps parce que forcément les habitants d'à côté on le passe spécialement envie qu'il y ait une salle de shoot comme on dit, que ça salle à côté, parce que ça va ramener d'autres problématiques.
Il y a toujours un problème moral autour de ça aussi.
Problème moral, un problème de sécurité aussi beaucoup.
Ouais.
Parce que voilà, ce qu'on voit dans la rue aussi, c'est les personnes les plus vulnérables et qui ont plus provoqué de désordre social.
Et du coup, par rapport aux salles de shoot, ça se passe comment en fait dans une salle de shoot? Est-ce que tu sais?
C'est totalement anonyme. Ça, d'accord. C'est sûr. Et il y a du matériel pour...
du matériel pour safe, du coup.
Pour, voilà, pour pouvoir consommer la drogue en toute sécurité. Il y a des professionnels de la santé aussi, si jamais il y a un problème. Et par contre, voilà, on rentre, on sort. On n'a pas à nous poser des questions sur notre identité. Il n'y a pas de... L'idée, c'est de venir en toute sécurité d'un point de vue médical, mais aussi juridique, quoi.
D'accord. Donc là, pour vous, aujourd'hui, en France, quelles sont les solutions qui sont apportées pour s'occuper de la gestion de la drogue? Alors, au niveau sanitaire, on a vu qu'il y a justement les CARUD, les salles de shoot. Au niveau de politique de santé publique ou politique en général, hein, sur les arrestations et tout ça, c'est quoi les politiques en ce moment sur la gestion de la drogue?
Ce qui est mis en place en ce moment, on parle...
Oui, par l'État en ce moment, parce que il y a quand même une guerre contre la drogue en ce moment qui est en train de se faire.
Ah bah c'est pas nouveau. Après, la guerre contre la drogue, c'est justement apparu dans les années 70 et ça se poursuit après. Comme je disais, au niveau de l'ONU, en fait, il y avait pas mal de conférences et de conventions pour souligner le fait que ça a jamais réussi à faire à fonctionner finalement. La répression n'a pas du tout réussi à faire diminuer le.
T'as des exemples de dans l'histoire de moments où ça a un peu dégénéré? Justement, il y a des vrais problèmes liés aux guerres contre la drogue.
Bah, la guerre contre la drogue, ça a provoqué plus de violence, en fait, tout simplement, parce que, bon, déjà, les usagers, qui sont déjà des personnes vulnérables, d'un point de vue médical, on les considère plutôt comme des... Donc, c'est une maladie, quoi, c'est la toxicomanie. Donc, c'est plutôt des personnes, ouais, vulnérables à protéger. Donc, si on les met en prison pour une simple consommation, ça... Déjà, d'un point de vue sanitaire, ça va pas avoir un grand impact.
Puis la prison, c'est quand même un endroit où on peut se procurer beaucoup de drogue facilement.
Ah bon?
Donc, oui.
Dans les prisons, on se procure de la drogue facilement, plus facilement qu'à l'extérieur?
Peut-être plus facilement, oui. En tout cas, ça aide pas, effectivement, de les mettre en prison, parce que c'est un milieu où ils vont avoir affaire à la drogue. Donc, ça va pas les aider à
découvrir. Ils vont apprendre à se cacher mieux aussi. Donc, en sortant, ça va être pire. Donc, cette répression-là est pas efficace?
Non, elle est pas efficace parce qu'en plus ça va. Enfin, le but de la répression, c'est de s'attaquer à la production de la drogue. Donc typiquement, ça va être des opérations qui a eu d'épandage, par exemple, de pesticides. Ça peut être au Pérou, en Colombie, là où ils font pousser. Là, je parle pour la cocaïne principalement, ouais. Parce que ça a été là que c'est le premier axe, en tout cas, des États-Unis, c'était de s'attaquer à la cocaïne, qui alimentait en fait les cartels de la drogue et tout ça. Mais du coup, le fait de poursuivre la répression, donc ça a permis de fragiliser certains cartels, mais ça les a aussi fractionnés. Donc le trafic c'est beaucoup divisé, donc c'est plus compliqué finalement de s'attaquer à ce trafic, puisque il est plus compliqué à localiser étant donné que tous ces grands groupes se sont petit à petit morcelés et continuent leurs activités. C'est plus dispersé et c'est plus compliqué à maîtriser. D'ailleurs, là, d'après les, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais si on regarde sur l'année 2000, les chiffres de l'année 2020, la production comme le trafic a continué d'augmenter, donc ça n'a absolument aucun impact. Et voilà.
Mais au niveau local, du coup, ça a peut-être un impact. Je veux dire, aujourd'hui, en France, on a quand même des politiques qui sont de plus en plus répressives. Il y a Macron qui n'arrête pas de répéter qu'il veut faire une certaine guerre à la drogue, qu'il veut arrêter le plus possible les trafics. Au niveau local, est-ce que ça fonctionne, ça?
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Il reprend toujours un peu une dynamique morale. Quand on écoute Darmanin, la drogue, c'est de la merde, point barre. Il n'y a aucune réflexion derrière. Mais effectivement, avec la tarification... ils ont mis des amendes forfaitaires, il me semble, sur les consommateurs. Et la France reste le principal pays consommateur de marijuana en Europe, alors qu'on a la politique la plus répressive. Bon, ça c'est banal, tout le monde le dit, mais c'est une réalité.
Oui, c'est une réalité.
Donc non, ça fonctionne pas, ça n'arrive pas à protéger les usagers, qui sont bien des personnes à protéger et pas à réprimer. Enfin, même si on peut désapprouver le fait que quelqu'un consomme de la drogue, a priori, de manière justement à réduire les risques, il n'y a pas de risque majeur pour la société, c'est surtout un risque pour la personne qui consomme, en fait. Le trafic, on va dire que si on avait une politique plus qu'aller vers une forme de légalisation, comme ça peut être le cas dans beaucoup de pays maintenant, que ce soit aux Pays-Bas, au Portugal, dans beaucoup d'États américains,
Paraguay... Au Portugal, du coup, c'est la dépénalisation. C'est quoi la différence entre dépénalisation et légalisation?
La dépénalisation, c'est juste qu'on la personne ne court plus de risque pénal, il va pas passer devant un tribunal, il risque plus d'incarcération. Par contre, il peut toujours avoir une amende, ça reste un Ça reste une infraction, en fait. C'est plus un délit. Du coup, ça change de catégorie. Et d'accord, on peut se balader légalement avec une certaine quantité sans problème.
D'accord. Il y a l'Allemagne aussi qui est en train de... cette année, qui va essayer de légaliser. Est-ce que tu saurais donner une définition de la légalisation, différence qu'il y a avec la dépénalisation, du coup?
Après, il y a plusieurs... La légalisation, ça, je veux dire, quoi, du coup, la consommation est libre. Donc, on risque pas ni d'amende, ni de peine de prison.
Et du coup, il y a aussi un rapport avec le marché, j'imagine.
Oui, je pense que la fabrication et la distribution de la drogue est gérée par l'État. La légalisation.
Pas automatiquement, en fait. Si on regarde, justement, c'est pour ça que ça peut y a différents types de légalisation. Si on prend l'exemple de beaucoup d'États américains, la production, elle est juste, elle se fait par des entreprises privées. Là, on parle que de marijuana, hein, c'est pas d'autres drogues. Mais du coup, c'est des entreprises privées qui vont prendre ça en charge. Donc, c'est pas vraiment régulé par l'État. Après, effectivement,
c'est les lois du marché normal, quoi.
C'est les lois du marché normal, exactement. Et après, c'est quand même, c'est fortement taxé. Et c'est quand même dans des magasins qui sont agréés, enfin qui sont contrôlés quand même plus ou moins.
Il y a aussi des pays où c'est uniquement médical la consommation et la distribution aussi d'ailleurs. Il me semble que ça doit être au Royaume-Uni où c'est uniquement médical.
Ouais, c'est possible. Et même en France, il me semble que la consommation médicale, il me semble que c'est en tout cas c'est plus toléré si ce n'est pas légalisé.
D'accord. Bah, par exemple, la bétadone. Après, c'est des substituts. En France, on va pas donner de l'héroïne ou de la morphine à des toxicomanes. On leur donne des substituts. Donc, Subutex, méthadone.
D'accord. C'est des substituts qui sont tout aussi addictifs,
Ah non, l'idée, c'est de se détacher de la drogue petit à petit. Après, c'est addictif aussi, mais, les risques sont moins grands.
D'accord.
Les conséquences, du coup. Non, les conséquences sur la santé.
D'accord. Conséquences sur la santé sont moindres, du coup.
Voilà.
D'accord. Et du coup, puisque ces stratégies, visiblement, de répression ne marchent pas, qu'est-ce que vous proposeriez, comme politique de gestion de la drogue? Qu'est-ce qui serait, à votre avis, le meilleur axe qu'on puisse prendre pour s'occuper des usagers de drogue?
La
réduction des risques, c'est quoi la réduction des risques?
C'est le travail que font les CARUD. C'est les salles de consommation à moins de risque aussi. C'est qu'en fait, au lieu de réprimer, on va plus ou moins soigner la personne parce qu'on considère qu'elle est malade de toxicomanie. Donc, du coup, on va l'accompagner, on va l'accueillir, dans les CARUD, ils vont aussi les rapprocher, leur ouvrir des droits, leur rapprocher du droit commun et tout ça. On va pas s'occuper seulement du côté toxicomanie. Parce que c'est toujours pratiquement lié avec des problèmes sociaux ou des problèmes psychiatriques. Donc, on s'occupe de ces trois axes autour de la personne.
Mais là, tu parles vraiment de drogue dure, en fait. Non, parce qu'il y a aussi des usagers de drogue qui sont, qui ont un usage quotidien. Je pense notamment à la marijuana, mais aussi il y a des drogues hallucinogènes qui sont pas forcément addictives d'ailleurs et qui ont un impact moindre du coup sur la santé et qui pourtant sont des drogues et c'est répréhensible encore aujourd'hui.
Oui, si on prend que l'alcool, c'est légal, mais ça a des conséquences énormes sur la santé. Donc oui. Si on a un problème d'alcool, on peut très bien aller au CARUD.
D'accord.
On sera aidé de la même façon. Si on a un problème de cannabis, on peut aller au CARUD. Et après, il y a énormément d'associations, de groupes, de consommateurs qu'on peut aller voir.
Du coup, pour les consommateurs qui n'ont pas de problème, qui ne considèrent pas avoir un problème et qui n'ont pas forcément de problème de santé par rapport à la drogue, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de consommateurs un peu cachés. Les consommateurs de cannabis, généralement, n'ont pas forcément d'énormes problèmes sociaux ou psychiatriques ou de santé liés à leur consommation de cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là?
On regarde ce qui se fait déjà et ce qui fonctionne, hein. C'est simple, hein. Il faut juste prendre le Portugal ou les Pays-Bas où voilà, la consommation n'a pas explosé en légalisant et ça permet quand même de plus protéger les consommateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir ce qu'ils vont consommer. Ils ne vont pas s'exposer non plus au risque de la vente à la rue où ça peut être des milieux un peu violents. Donc mon point de vue c'est qu'il faudrait légaliser au moins la marijuana, parce que bon je vois pas. En fait ça n'a absolument aucun sens d'interdire la marijuana, alors que l'alcool, qui est une substance beaucoup plus dangereuse d'un point de vue médical, est légal, quoi. Donc c'est juste d'un point de vue, ça s'est fait culturellement, et aussi c'est vrai qu'on n'était pas non plus le maître de la production de la marijuana, donc d'un point de vue économique, ça pouvait se défendre, quoi. Que ça soit prohibé, mais bon, franchement, je pense que en légalisant, on va pouvoir un peu assez atteindre les trafics, donc réduire un peu la problématique de violence liée au
et
trafic de drogue.
Pour la marijuana, du coup, ou aussi pour d'autres drogues, je pense notamment aux champignons hallucinogènes, par exemple.
Moi, je pense qu'il faut plutôt aller vers un système un peu comme au Portugal, au moins une dépénalisation de toutes les drogues, voire une légalisation. Mais ouais, le principe après c'est justement d'être suivi un peu comme ce que font les Carudes, quoi. C'est ça qu'ils ont revendiqué aussi au début dans les années 90, c'est de s'organiser justement pour faire entendre leur voix, alors qu'avant ils étaient juste considérés comme des criminels, en fait. Donc tout simplement, c'était pas du tout envisagé comme un problème, et le fait de légaliser, ça permet d'être plus sûr de la substance qu'on va prendre, dans un cadre qui va être souvent mieux, on va être mieux encadré, plus safe, ouais, voilà. Et quoi, aussi, ça va aussi permettre d'attaquer des trafics sur leur commerce. Donc,
globalement, ça permettra plus de transparence au niveau.
Plus de transparence, bah oui. Parce que, après, c'est déjà ce que font les carrés aussi, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre sur les, par exemple, dans les technivals ou ce genre de choses, où il y a quand même beaucoup de drogues qui circulent, ils vont se mettre avec un stand, ils vont parfois pouvoir analyser les drogues que les gens leur présentent, donc ça a l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'on consomme, parce que des fois, quand c'est vendu comme ça, un peu sous le manteau, entre guillemets, on sait pas du tout à quoi ça peut correspondre. Donc l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils consomment, après ils peuvent donner des conseils, prendre plutôt de telle manière, enfin voilà quoi. Ouais, le but, c'est d'être encadré et d'avoir des conseils, et d'ailleurs ils font un magazine carré qui s'appelle Asud, qui est un magazine où justement les usagers de drogue vont parler des nouvelles choses qui se font, des nouveaux produits qui vont sortir, donc ils les testent, et comme ça donne de l'information en fait sur les manières de consommer, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, sur les nouvelles manières de soigner qui ne sont pas forcément totalement diffusées aussi dans les hôpitaux. Donc eux-mêmes testent des produits, en fait ils s'auto-organisent pour finalement réduire les risques.
D'accord, donc l'information aussi c'est assez important, et l'éducation finalement autour des drogues, ça a beaucoup d'importance dans la prévention des risques.
Bah, c'est super important. Il y a des forums, par exemple, psychoactifs, qui est pareil, qui est issu de la même équipe qui avait créé le journal La Sud, qui permet aussi, du coup, à chacun de donner son ressenti. Donc, plus on a d'informations, finalement, sur une consommation de substances, plus on arrive à se faire une idée de ce que ça va faire au moment de l'ingérer. Et donc, finalement, c'est plus safe. Il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que, bon, le problème de la drogue aussi, c'est de faire des overdoses ou, pour le cas de la marijuana, de faire des bad trips. Et c'est vrai que si on sait pas ce qu'on prend, en quelle dose on prend, bah c'est peut-être la meilleure façon de mal vivre aussi
la
prise de drogue. Et donc voilà quoi, donc ça a tout intérêt de limiter les risques comme son nom l'indique.
D'accord.
Moi j'avais un peu le même point de vue, hein. Pour moi, la légalisation des drogues, ça pourrait éviter déjà cette double peine de on a des risques liés à la drogue en elle-même sur notre santé, plus pour aller l'acheter, pour la consommer, on n'a pas forcément le matériel, donc ça réduit des risques. On va aller dans des milieux violents, donc des risques. Et donc voilà, pour réduire des risques, déjà légaliser, ce serait une bonne chose. Et oui, l'éducation, et pas seulement pour les usagers, vraiment pour toute la population.
D'accord.
Pour essayer de déstigmatiser les gens qui prennent de la drogue.
Et puis aussi avoir des informations réelles sur les effets de la drogue sur le corps, sur la psyché, sur soi.
Puis ça peut avoir des applications aussi positives. Si on prend par exemple une drogue comme le LSD, au début il y avait beaucoup d'essais justement au début des années 60, puis ça a été arrêté pendant la guerre de la drogue, et en 1966 il me semble que ça a été interdit. Pourtant maintenant, même si c'est compliqué de refaire des études dessus, on se rend compte que ça peut avoir ça peut être bénéfique pour les gens qui ont Parkinson
ou des dépressions.
Voilà, ça peut aussi avoir. En fait, ça peut. Ces drogues qui sont considérées comme illicites peuvent aussi servir finalement de médicaments. Donc, en fait, pouvoir continuer à faire des études dessus et à développer, à produire de l'information sur ces substances, ça permet aussi non seulement de se rendre compte que ces personnes-là sont pas forcément des criminels, d'avoir un regard neuf sur cette pratique, et aussi parfois d'aider aussi le monde médical, quoi. Ça permet aussi de faire certaines avancées, mais il y a une grande différence entre les années 60 tout ça c'est parti parce qu'il y avait des faits divers, on racontait, voilà, hein, quelqu'un a fumé de la marijuana, il a trucidé toute sa famille, attention c'est dangereux, alors que on part quand même de là. Après on a commencé à étudier le truc, mais le problème c'est que les politiques publiques en France ont toujours quand même un gros wagon de retard, on va dire, sur la recherche qui se fait, donc il y a toujours ce décalage là qui est fait, quoi. Donc on est toujours un peu ancré dans des problèmes moraux, alors que concrètement on a une compréhension beaucoup plus affinée maintenant aujourd'hui de la consommation de drogue, des problèmes que ça engendre.
D'accord. Et c'est ces problèmes moraux généralement qui impliquent des politiques qui sont assez violentes dans le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Amnesty International a commencé à s'intéresser aux politiques liées à la drogue. On a notamment la guerre de la drogue aux Philippines, du président des Philippines, qui a été extrêmement meurtrière. Donc du coup, Amnesty International a sorti plusieurs rapports sur le sujet, et maintenant du coup s'intéresse aux problèmes liés à la drogue et a décidé d'avoir quatre domaines principaux d'action. Ça va être d'abord la protection des personnes et des droits humains, s'attaquer aussi aux injustices dans le système social, ce qui suppose la fin des condamnations à mort pour les délits liés à la drogue, l'élimination des traitements forcés pour les usagers, la dépénalisation de l'usage, de la possession et de la culture de la drogue pour un usage personnel. Ça implique aussi du coup de réduire l'impact de la violence ainsi que du crime organisé, et enfin réformer le contrôle international de la drogue. Donc voilà, c'est les quatre aspects sur lesquels Amnesty International voudrait agir, en tout cas essaye d'agir. Et en aucun cas ça veut dire que Amnesty International est d'accord avec, fait l'apologie de la drogue, pas du tout, mais par contre les dérives des politiques violentes qui sont menées pour la gestion de la drogue, ça par contre Amnesty combat avec ferveur ce genre de discrimination. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Radio FM+, et on se retrouve bientôt à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.